Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho pour un nouveau sujet consacré à l'emprise. Comment tombe-t-on sous emprise? Comment en sortir? Pour traiter de ce sujet complexe, nous pourrons bénéficier aujourd'hui de l'expertise de Christine Calonne, psychologue, psychothérapeute et autrice de plusieurs livres sur le sujet, notamment des violences psychologiques. Christine Calonne, bonjour et merci de nous faire l'honneur d'être avec nous pour parler de ce sujet.
Bonjour Émilie.
Alors, tout d'abord, première question, pour mieux comprendre de quoi nous parlons, pouvons-nous définir brièvement ce qu'est l'emprise?
Oui, donc l'emprise, c'est un processus de domination. Et j'insiste sur ce mot, c'est un processus puisqu'il y a un début, un développement et une fin. Et donc, voilà, c'est important de comprendre ce processus pour évidemment pouvoir en sortir. Donc, ce processus, on l'appelle aussi le contrôle coercitif. C'est Evan Stark qui a le premier décrit le contrôle coercitif et les violences de l'agresseur qui amènent la victime à devenir un objet pour l'autre.
D'accord, c'est un processus donc. Commençons par le commencement. Comment tombe-t-on sous emprise? Où commence le processus en fait de mise sous emprise?
Donc, en fait, il peut y avoir plusieurs facteurs, on va dire. Par exemple, un événement de vie, un deuil qui fragilise. Et donc, ça, c'est plutôt événementiel. Mais on peut aussi avoir des facteurs prédisposants au niveau de la personnalité, donc des traumas de l'enfance qui font que, par exemple, on ne reconnaît pas la violence et donc on est plus facilement l'objet de manipulation et donc de domination. On a aussi des facteurs culturels qui peuvent favoriser ce contrôle, par exemple une éducation à la soumission, à l'oubli de soi. Ça, c'est des facteurs à la fois sociaux et culturels.
Très bien. Et quelles sont les différentes étapes de la mise sous emprise? Ça ne se fait pas du jour au lendemain, j'imagine que
Non.
c'est progressif.
Voilà, c'est progressif et ça commence par un jeu de séduction qu'il ne faut pas confondre avec la séduction amoureuse puisque là, il s'agit de mise sous contrôle, donc ce n'est pas quelque chose d'affectif.
Oui, il n'y a pas de réel amour en fait. Vraiment, ça démarre tout de suite par un jeu, enfin, c'est un peu une supercherie dès le départ.
C'est ça, hein. Donc par exemple la flatterie, l'offre de cadeaux pour attirer l'autre dans ses filets. Donc ce n'est pas une relation, si on définit l'amour comme le respect de l'autre, le respect de la personne de l'autre, on n'est pas dans ce cas de figure puisque le but de l'agresseur est de réduire l'autre à l'état d'objet. Donc là, c'est vraiment une séduction qui vise à manipuler et non un début de relation amoureuse. Donc, où il y a un respect de la personne de l'autre. Donc, ça, c'est le début du processus. Donc, cette séduction qui n'est pas du tout dans le registre amoureux. Et puis, s'ensuit, si ça marche, évidemment, là, c'est le verrouillage de la relation que l'agresseur met en place à travers un contrat, que ce soit le contrat de mariage, l'achat d'une maison, ou faire un enfant, c'est un contrat inconscient, mais qui revient au même, c'est-à-dire, finalement, coincer l'autre, le maintenir sous contrôle. Et une fois que le verrouillage est installé, en général, là, l'agresseur montre son vrai visage, cette domination de l'autre qu'il veut développer à travers différentes techniques de manipulation et des violences, qu'elles soient psychologiques, verbales, physiques, sexuelles ou économiques. La domination est installée, ben là, il y a aussi l'exploitation de l'autre qui se manifeste, soit financièrement, soit à travers une surcharge de responsabilité. C'est toutes sortes de formes d'exploitation qui permettent à l'agresseur vraiment de renforcer encore l'emprise et pour terminer la destruction, voilà, de la personne de l'autre qui est réduite à l'état d'objet et donc qui a perdu son identité.
Très bien. Oui, c'est tout un processus. Donc, généralement, donc la proie, si elle est là et qu'elle est entrée sous l'emprise, c'est une proie qui est très amoureuse. Parce que j'imagine que toute la phase de séduction a très bien fonctionné. On l'a dit, donc ce processus engendre voilà, tout un comportement, des micro-violences, etc. Comment est-ce que la proie, qui donc, je le rappelle, est très amoureuse, peut prendre conscience de ces agressions? Parce que j'imagine qu'elle ne veut pas le voir, elle espère que ça va s'arranger. comment et à quel moment elle peut prendre conscience de ces agressions et de leur de dommages qu'elle crée dans le couple et notamment dans la vie de l'enfant.
Eh bien, en fait, elle en prend conscience souvent progressivement grâce à des réflexions de l'entourage, mais surtout par finalement la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que souvent les réflexions de l'entourage ne font pas d'effet, puisque comme vous le dites, elle est très amoureuse, elle est donc aveugle à ces mécanismes de manipulation et même à la violence. Et donc, du coup, c'est vraiment la destruction de ses ressources, qu'elles soient psychologiques, émotionnelles, parfois financières, ou relationnelle, enfin cette destruction progressive, à un moment donné, elle va trop loin. Et ça, c'est vraiment subjectif, c'est vraiment, chaque personne le vit différemment. Et donc, c'est un processus.
D'accord. On pourrait dire, oui, ça se voit là, cette personne-là agresse, pourquoi il n'y a pas de réaction? En fait, quelles sont les réactions type de quelqu'un sous emprise face à une agression qui normalement ne devrait pas laisser indifférent. Comment se comporte en fait la victime?
Bien, ce qui se passe, c'est que l'accumulation de micro-violences et de manipulations entraîne la victime dans ce processus de contrôle coercitif. Et donc, elle ne voit pas la cage dans laquelle elle est enfermée. Evan Starr dit que la victime, comme l'entourage, ne voit que certains barreaux. Et donc, il y a un aveuglement. Et par contre, les effets sur la victime se font de plus en plus sentir. Plus il y a d'agressions violentes, plus la victime perd son estime d'elle-même, sa confiance en elle, développe un sentiment de honte, de culpabilité. Une impuissance apprise, puisque c'est l'accumulation des agressions violentes qui l'amène à l'impuissance, parce qu'au début, elle essaye de se faire entendre, et puis elle voit que finalement, ça ne fait qu'accentuer la violence, et donc elle renonce. Et ça a été étudié en laboratoire sur des animaux qu'on a enfermés dans des cages, et qui recevaient des chocs électriques, et à force de recevoir des chocs électriques, eh bien, ces animaux, une fois qu'on ouvre la porte de la cage, ils restent là, ils restent dans la cage. Donc, ce phénomène d'impuissance apprise, qui a été étudié par Seligman, eh bien, il est aussi présent dans la relation d'emprise. Et donc, c'est cette impuissance apprise qui explique évidemment que la victime ne part pas, malgré tout ce qui arrive et l'entourage, avec un point de vue extérieur, ne comprend pas ce phénomène très souvent.
C'est la question que j'allais vous poser ensuite, c'est quand on fait partie de l'entourage de la victime et qu'on se rend compte justement qu'on suspecte ce genre de relation, comment agir et que dire? Parce que c'est assez délicat en plus, enfin, ce sont des suppositions, là c'est la personne, on le sait, est amoureuse. Et puis, c'est toujours délicat aussi de venir un petit peu donner son avis sur un couple. Donc, comment on peut agir et qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne pour qu'elle prenne conscience ou au moins qu'il y ait planté une petite graine, on va dire, dans l'esprit de la personne?
Alors, je pense que l'entourage, c'est important qu'il ne soit pas interventionniste parce que très souvent, en fait, alors à ce moment-là, il y a un déplacement du problème. La victime voit en ces personnes de l'entourage l'agresseur, au lieu de le voir là où il est. Et donc, cet interventionnisme n'est vraiment pas à conseiller. Par contre, être attentif à la personne, reconnaître ses émotions, ses besoins, sa détresse, si elle l'exprime, être disponible et poser des questions ouvertes. Pas d'actes autoritaires, mais plutôt des questions ouvertes avec une écoute bienveillante, pas de jugement.
Très bien, ouais, surtout pas de jugement et de la bienveillance. Difficile de s'en rendre compte, toutefois, vous le disiez tout à l'heure, généralement, donc c'est la goutte d'eau hein, qui fait que voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut sortir. Mais comment sort-on précisément de l'emprise?
Alors, ça, c'est une question importante. Donc, ce qui permet d'en sortir, c'est d'abord la prise de conscience. Donc, la prise de conscience, c'est vraiment le fait que le corps n'en peut plus il y a un excès de stress. Et ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, on dit des victimes, une fois qu'elles sont libérées de l'emprise, qu'elles sont dans un état de stress post-traumatique. Donc, ça se voit parce que soit la personne est complètement dissociée de son corps, elle n'est plus dans son corps, elle ne ressent plus son corps, et donc elle est vraiment devenue une sorte de robot, ou bien elle est submergée par le stress, elle n'est pas dissociée, et là, il y a vraiment des réactions physiologiques très importantes. Et donc, ça, c'est important de mettre des mots dessus sur ce stress qui est la conséquence de ces agressions violentes et de cette impuissance à s'exprimer, à vivre. Donc là c'est important, cette prise de conscience. C'est ça qui déclenche le sentiment que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et que là, il faut fuir. Je dirais que c'est la première chose. Ensuite, demander de l'aide. Donc là, c'est possible une fois que justement la personne est sortie du déni, parce que souvent elle est dans le déni pour pouvoir supporter l'insupportable. Hein. Donc ce déni, il est lié au fait qu'il y a de la manipulation, il y a un contrôle, et donc les deux ensemble amènent la personne au déni. Surtout aussi le fait qu'elle sent que si elle prend distance, ça devient vraiment dangereux. Et donc, là, c'est souvent d'ailleurs ce qui se passe. Une fois qu'on prend distance de l'agresseur, il y a un accroissement des violences. Et donc, ce que la victime ressent est juste. Et donc, c'est important d'en prendre conscience et de se protéger. Donc, là, c'est trouver des ressources, des personnes ressources, des activités ressources, tout ce qui peut redonner vie à la victime et lui permettre à nouveau de se mobiliser pour retrouver son identité, son estime d'elle, sa confiance en elle, sa capacité à faire face à la situation et à poser ses limites. Et donc tout ça, eh bien, c'est nécessaire d'y accéder pour pouvoir faire face à l'agresseur, notamment reconnecter son corps, apprendre à gérer son stress et donc redéfinir aussi ce qui est important pour elle. Ça, c'est très important, c'est les besoins, les valeurs qu'elle avait et auxquelles elle a renoncé finalement pour pouvoir espérer apaiser l'agresseur.
Ouais, c'est difficile effectivement quand la personne s'est soumise, souvent pour ne pas faire de vagues ou pour répondre positivement à ces micro-agressions, ces injonctions, etc. Et surtout pour pas effectivement qu'il y ait de débordement au sein du couple, de se rendre invisible en fait. C'est vrai que ça doit je me dis que le corps en fait doit vraiment encaisser tout ça. Reprendre conscience donc de soi, de nos propres envies, pour reprendre de l'énergie, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Ça peut passer par, effectivement, vous le disiez, donc renouer avec peut-être des personnes, la bienveillance, pratiquer ces activités qui, peut-être pour se reconnecter à soi, je pense aussi au yoga aussi qui fait beaucoup de bien pour prendre conscience de tout ça. Mais en tous les cas, il faut pas hésiter aussi à se faire accompagner. Une fois que la personne a réussi à partir, comment faire partir les peurs qui nous restent après ce type de relation sous emprise? Parce que j'imagine que ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus.
Oui, parce que la victime a finalement son système nerveux qui est complètement dérégulé suite au stress post-traumatique subi durant l'emprise, les violences récurrentes. Et donc, c'est important d'apprendre à réguler son système nerveux. Et ça passe par, comme vous dites, des exercices d'apaisement comme le yoga, l'activation du nerf vague. On peut trouver sur YouTube des exercices à faire pour activer le nerf vague et donc le réflexe d'apaisement du système nerveux. Et donc, ça se fait de façon progressive parce qu'au départ, la victime a peur de lâcher prise, d'être en relaxation parce qu'elle a pris l'habitude d'être, je veux dire, surprise par les violences et donc de ne jamais lâcher prise. Et donc là, il y a des exercices à faire, par exemple, d'apprendre à être ici et maintenant, observer son environnement et voir que dans l'ici et maintenant, il n'y a pas de danger. Donc ça, c'est le réflexe d'orientation du regard et qui permet alors de sentir le corps, de sentir qu'ici et maintenant, il n'y a pas de danger, atterrir dans le corps, pouvoir connecter le corps et sentir qu'il n'y a pas de danger, et puis faire des exercices, par exemple, comme la cohérence cardiaque, qui permet aussi de réguler le système nerveux, ou bien des petites choses simples comme boire un coup d'eau et sentir que ça fait du bien. Ça peut être aussi plus imaginatif, penser à un lieu où on se sent en sécurité. Vous voyez, il y a toutes sortes de petits exercices quotidiens, et ça, j'insiste là-dessus, la régulation du système nerveux après l'emprise, c'est vraiment nécessaire que ce soit quotidien, tous les jours, se donner du temps pour s'apaiser, parce que c'est un déconditionnement. C'est comme si elle avait été conditionnée par un endoctrinement à rester en hypervigilance pour anticiper les agressions. Et là, tout à coup, elle se retrouve dans une autre situation, mais comme si elle était conditionnée, elle continue à être en hypervigilance et son organisme, son système nerveux reste sous tension ou au contraire est complètement déconnecté. Et donc là, c'est important qu'elle mobilise des ressources quotidiennement pour apaiser son système nerveux et aussi retrouver du plaisir à faire des activités. Et donc là, ça va être important pour retrouver du bien-être. Donc, qu'est-ce qui lui faisait plaisir? Qu'est-ce qui lui procurait du bien-être avant l'emprise? Ou si elle n'a jamais connu ça, elle peut le découvrir en essayant des choses et en voyant si ça lui fait du bien, si elle s'apaise.
Très bien. Je pensais notamment aux personnes qui ont quitté la relation, mais qui doivent tout de même rester en contact parce que parfois il peut y avoir des enfants au milieu. On le sait, la personne en fait a besoin de contrôle et quand elle sent justement que ce contrôle échappe un petit peu, ces micro-agressions peuvent tout de même continuer, que ce soit par message, etc. Quel est le meilleur comportement à avoir pour essayer de ne pas rentrer dans le jeu et pour faire une sorte de pare-feu en disant, voilà, quelle est la meilleure attitude à avoir en fait pour stopper net toute agression, on va dire.
Oui, donc là, je pense que c'est important, je dis souvent à mes patients, choisissez un moment dans la semaine pour ouvrir les mails et ne pas vous laisser envahir, parce que c'est ce que veut l'agresseur, c'est réenvahir la vie privée de la victime, comme il l'a fait au départ d'ailleurs. Et donc, envoyer toutes sortes de SMS culpabilisants, dénigrants, etc., ou des emails, etc., ou faire intervenir un tiers, etc. Donc là, c'est très important de choisir son moment
Mais
pour
une fois, voilà, pas.
pas tout le temps, parce que c'est ça. Si la victime reçoit tout le temps des messages, finalement, c'est comme si elle était toujours dans la relation d'emprise.
C'est ça.
Elle ne pourra pas se reconstruire. Hein. Donc, c'est important qu'elle s'autorise à faire ça parce que c'est seulement comme ça qu'elle va pouvoir aider son système nerveux à lâcher prise et à ressentir de nouveau du bien-être, de l'apaisement. Donc, choisir les moments pour échanger par SMS ou par email ou avec un tiers entre les deux.
Très bien, merci beaucoup pour ce conseil. Et donc, quand on a vraiment tourné la page, comment est-ce que l'on peut se reconstruire pour reprendre le pouvoir de sa vie? Aller de l'avant, faire de nouvelles rencontres sans avoir trop peur. Comment ça se fait?
Alors ça, c'est donc très important d'avoir compris d'abord ce qui nous est arrivé, parce que sinon, on imagine que tout le monde peut être comme ça, hein, c'est souvent ce que disent les victimes. Ah, elles voient des agresseurs partout, donc là, c'est très important d'apprendre identifier ce qui, dans leur histoire, fait qu'il y a eu une faille et que l'agresseur s'y est engouffré. Et donc, une fois que cette compréhension est là, on peut alors à ce moment-là mobiliser des ressources pour s'apaiser, reconstruire son identité. Et après cela, on peut sortir de l'isolement. Et c'est très important parce que en sortant de l'isolement, la victime se rend compte que tout le monde n'est pas comme ça et que elle peut rencontrer des personnes bienveillantes. Mais ça demande évidemment aussi de désamorcer les mécanismes de survie parce que souvent la victime est soit figée, hein, si on reprend les trois mécanismes de survie du système nerveux, combattre, fuir ou se figer. Souvent, la victime, soit elle est figée et à ce moment-là, elle reste en retrait et finalement, les gens n'ont pas envie de venir vers elle, ce qui lui confirme que bah, les relations avec les autres, ce n'est pas pour elle. Ou bien, elle est dans le combat, elle a des crises de colère, elle se sent hypersensible à la moindre critique, elle explose. Et donc là, c'est très important d'identifier quelle est la sécurité qui se cache derrière ces mécanismes de survie. Et cette insécurité, eh bien, d'arriver à l'apaiser. Et au niveau du cerveau reptilien, il y a trois peurs fondamentales qu'on retrouve chez toutes les victimes, et chez tous les êtres humains d'ailleurs, fondamentalement. C'est la peur d'être seul, la peur d'être impuissant, surtout l'impuissance apprise, évidemment, qu'on disait tout à l'heure, et la peur d'être incapable. Et donc, si on essaye de se poser des questions sur ces mécanismes de survie, tiens, si je suis dans le retrait, ben, j'ai peur de quoi ? Pourquoi est-ce que je suis dans le retrait ? Et je vais jusqu'au bout de mon questionnement pour identifier la peur et alors mobiliser une ressource pour apaiser ma peur. Donc, soit une ressource imaginaire, repenser par exemple, si j'ai peur de l'impuissance, ben, un souvenir où j'ai été puissante. Et quand je me rappelle de souvenirs, qu'est-ce que ça me fait ? Qu'est-ce que je ressens ? Et laisser vraiment les sensations agréables, l'émotion agréable venir dans le corps pour retrouver sa puissance intérieure. Et ça, c'est très important de retrouver sa puissance intérieure parce que c'est elle qui nous donne l'énergie pour poser nos limites et donc pour se protéger. Donc ça, c'est essentiel d'apprendre à écouter son corps pour à la fois s'apaiser, écouter ses besoins et pouvoir poser ses limites.
Merci Christine, il est donc tout à fait possible de se reconstruire, vous venez de le dire. Je vous remercie infiniment pour votre intervention sur ce sujet qui est très complexe. On sait que voilà, il y a beaucoup de vies comme ça qui sont malmenées, mais surtout à toutes les personnes qui sont dans cette situation-là, gardez l'espoir et vous entendez Christine, hein, vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez sortir de ça. Vous étudiez donc ce sujet, Christine Calonne, vous en avez aussi écrit des livres. Je pense que vous en avez un ou deux sous la main que vous pouvez peut-être nous présenter pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin dans ce sujet.
Oui, bien sûr. Donc, j'ai écrit « Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme » aux éditions Ellipse dans la collection donc, « Récits et témoignages » où là, je parle du système nerveux, justement, de ces mécanismes de survie avec des témoignages de patients qui ont traversé un processus thérapeutique et qui s'en sont sortis. Donc, ça aide vraiment à comprendre le stress post-traumatique et comment y faire face. Et un livre plus général, quand on se pose des questions plus générales sur l'emprise, sur les violences de l'emprise et la manipulation, c'est « Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme » dans la collection « Sans questions-réponses », toujours aux éditions Ellipse. Donc là, c'est plus des réflexions générales. Hein, donc, tandis que le premier, c'est plus vraiment en détail la compréhension de la reconstruction du système nerveux et donc de son identité.
Merci de nous avoir parlé de ces livres-là. Donc, n'hésitez pas à parler autour de vous, à demander de l'aide si vous pensez que quelque chose ne va pas ou que vous ressentez, ne serait-ce qu'un mal-être dans vos relations. Dans votre relation, pardon, des solutions existent. Vous disiez, on peut guérir de ce traumatisme et notamment se faire accompagner par un professionnel. Christine Calonne, vous-même, vous proposez des consultations. Comment faire pour vous contacter ?
Eh bien, donc, vous avez mon site internet psychothérapie-calonne.be où vous avez toutes les informations utiles. Et donc, ça peut se faire par Zoom, par Skype ou en présentiel. Et donc, voilà, c'est la meilleure façon de me contacter.
Merci beaucoup Christine Calonne et surtout n'hésitez pas à rejoindre Christine Calonne si vous avez ne serait-ce que des interrogations sur ce que vous vivez ou vraiment voilà que vous sentez que quelque chose ne va pas, ne laissez pas la situation s'envenimer, hein, il faut dès qu'il y a une petite alerte surtout il ne faut pas hésiter. Un grand merci pour votre gentillesse et votre expertise Christine Calonne.
Merci aussi de m'avoir invitée Émilie, au revoir.
J'espère à bientôt pour un prochain sujet. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.